Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h18, la suite des grands débats ce matin, toujours avec Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, mais avec notre invité, Denis Oliven, qui est journaliste essayiste et auteur d'un livre, Un étrange renoncement aux éditions Albin Michel. Alors, oui. Est-ce que c'est un essai plutôt ?
Oui, bonjour Denis Oliven.
Bonjour.
Étrange renoncement. Alors, je disais tout à l'heure, on en parlait, que évidemment la gauche avait perdu un petit peu sa boussole, parce qu'on parlait tout à l'heure avec Elisabeth Lévy et Alexis Poulain, d'Anne Hidalgo, qui était en train d'essayer de se repositionner en vue de la campagne, notamment face aux écologistes. Alors, vous évoquez indirectement ces questions, parce que c'est vrai qu'on a vu apparaître lors du débat des écolos et de la primaire, les questions croissance, décroissance, qu'est-ce que l'on fait ? Et c'est ce que vous évoquez directement dans ce livre, en se disant si on n'a plus de croissance, puisque certains sont en train de prôner une décroissance, notamment dans les universités, où va-t-on pour le pays, déjà, qui ne va pas très bien, quoi ?
En fait, moi, je me suis intéressé à la question qui me paraît étrange, d'où le titre, l'étrange renoncement de la France, qui est un grand pays, à la croissance. Puisque, il y a 40 ans, on était le 5e pays du monde par sa richesse par habitant. Aujourd'hui, on est le 25e et on continue, année après année, de dégringoler les marches. On est les aventuriers de la croissance perdue. Ouais. Et ça produit des effets désastreux. Parce que si vous essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un jour une flambée dans les banlieues, le lendemain une crise des gilets jaunes, le jour d'après une révolte des fonctionnaires, le ras-le-bol fiscal, et même toutes les questions d'identité, de crispation identitaire du débat, on le voit aujourd'hui dans la campagne, c'est lié à ça d'une certaine manière, parce que moins de croissance, c'est moins d'emplois, moins de pouvoir d'achat, moins de ressources pour les services publics, donc plus d'impôts, moins de capacité à intégrer des populations étrangères parce que l'ascenseur social est en panne. Et donc, pourquoi est-ce que la France a renoncé à la croissance ?
Mais est-ce qu'elle a vraiment renoncé, alors ?
En tout cas, c'est ce qu'on observe quand on regarde les chiffres. Sur la décennie, on est à 1% de taux de croissance, c'est-à-dire le taux que nous avions en 1800, avant toutes les révolutions industrielles, technologiques qui ont permis de financer les acquis qui sont les nôtres aujourd'hui. Et quand on réfléchit à la question pourquoi est-ce qu'on a renoncé à la croissance, on n'est pas les seuls. Tous les pays occidentaux connaissent un affaiblissement de la croissance. Mais nous, on a une surinfection par rapport à cette maladie générale. Si vous comparez avec l'Allemagne, vous prenez l'Allemagne, on vient de célébrer la fin d'Angela Merkel. Sur les 15 dernières années, l'Allemagne, en richesse par habitant, a cru 3 fois plus vite que nous. Résultat des courses, elle a un taux de chômage qui est la moitié du nôtre. Elle a une dette par rapport à son PIB qui est la moitié du nôtre. Donc, pourquoi est-ce que la France a cette surinfection ? Pourquoi est-ce que la croissance qui devrait être son totem est devenue son tabou ? Et là, on voit que la gauche a joué, malheureusement, un rôle décisif. Les progressistes ont tourné le dos au progrès, et ça m'interpelle.
Oui, au progrès, au travail, quoi. Peut-être aux valeurs, en fait, du travail. On n'avait plus besoin d'industrie en France, non, mais on allait surfer aussi sur une certaine société des loisirs.
Sans créer de
la richesse, quoi.
On s'est brouillé avec le travail. On est le pays riche qui travaillent le moins au monde, 600 heures par habitant et par an. Je ne parle pas de ceux qui travaillent,
mais je parle du fait que...
On a une bonne productivité, mais on n'a pas assez de gens au travail. Pourquoi ? Parce que on n'a pas assez d'alternance, donc les jeunes travaillent moins qu'ailleurs, parce qu'on a une retraite plus longue, parce qu'on a un taux d'activité féminin plus faible que les autres. Donc, 600 heures par an et par habitant, comment voulez-vous qu'on produise de la richesse en travaillant moins ? Donc, on n'a pas de travail. On n'a pas créé pour les entreprises un climat très favorable. Je vous donne un seul exemple. On a le taux d'imposition de capital le plus élevé, le deuxième le plus élevé d'Europe. On est en train, c'est le sujet qui m'intéresse aussi, devant la crise du climat, qui est vraiment dramatique, face à laquelle il faut qu'on réagisse. On a la tentation, sous la pression d'une partie des écologistes, de dire, c'est pas qu'on va innover. On va pas innover davantage, on va tout arrêter.
C'est Greta Thunberg Non mais je vous le dis d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Elle pose de bonnes questions peut-être, mais pas avec les réponses
exactement.
Adéquates.
Exactement. Moi c'est pas qu'elle nous titille sur le climat, qu'elle nous mette en demeure d'agir. Elle a raison. Simplement, je pense que les réponses qu'elle apporte sont les mauvaises. C'est pas en détruisant la société qu'on va sauver la planète. C'est pas en effondrant nos niveaux de vie qu'on va réussir à réduire réduire le niveau d'émission de CO2. Il faut qu'on trouve une autre voie, ouais. La voie de l'innovation, celle que nous avons depuis 2 siècles. L'humanité a fait des progrès qui n'avaient pas d'exemple pendant les millénaires qui ont précédé. Et comment elle a fait ses progrès ? Par l'utilisation du cerveau humain, par l'innovation. On a eu un nombre d'inventions considérables. Que ne mettons ce cerveau humain au service de l'innovation pour faire face à l'enjeu climatique.
Oui, des questions et des réflexions aussi avec Elisabeth Lévy et Alexis Poulain, tout d'abord aussi.
Oui, moi, alors, sur l'innovation, il y a un peu, en fait, une croyance techniciste que le progrès serait lié aussi à l'innovation technique. Mais est-ce que le progrès, c'est pas d'avoir moins de temps de travail, de pas travailler le plus longtemps possible avec la retraite ? Est-ce que le progrès, c'est pas d'avoir plus de loisirs, plus de vie sociale et moins de vie au travail ?
Mais très, très loin de moi l'idée de revenir au 19e siècle, aux enfants dans les mines, etc. Mais il y a un équilibre à trouver entre la juste utilisation des gains de productivité pour améliorer la situation de nos concitoyens et l'excès. Je pense pas que l'Allemagne ou la Suède ou le Danemark, parce que moi mon modèle c'est la Scandinavie. Je pense pas que ce soit des pays épouvantables.
Mais ça fait longtemps que la Scandinavie c'est le modèle, hein. Et puis finalement on s'en inspire pas.
Bah non, malheureusement c'est ce que je dis, c'est ma critique. Mais donc je pense pas que ni la Scandinavie, ni le Danemark, ni l'Allemagne ne soient des pays épouvantablement néolibéraux qui exploitent leur classe ouvrière. Ce sont des pays qui ont le niveau le plus avancé socialement du monde.
Et donc vous voyez bien qu'il y a une école au Danemark par exemple, ça n'a rien à voir. Hein. L'école, la façon dont très jeunes, en fait, on autonomise les individus, on leur apprend aussi à capitaliser sur leur force.
Mais l'école, vous voyez, l'école est un bon exemple. J'ai dit tout à l'heure que la gauche était trompée. Quand elle s'était, face au chômage, à la montée du chômage, au lieu de se dire comment on fait plus d'activités, elle s'est dit on partage le travail, résultat des courses, on ne travaille pas assez. Et quand devant la crise, le début de crise du système éducatif, au lieu de se dire ce qu'on fait à un certain nombre de pays, on s'occupe de manière prioritaire et massivement des élèves les plus en difficulté, issus la plupart du temps des milieux les plus défavorisés, elle a moyenné, massifié, résultat des courses, on a, selon l'OCDE, le système scolaire parmi les plus inefficaces du monde, et surtout le plus injuste socialement, celui qui reproduit le plus les inégalités. Donc finalement, les mesures des progressistes conduisent à l'inverse du progrès. Et donc, en effet, il faut qu'ils révisent leur logiciel. Et comme ils ont une énorme influence sur l'imaginaire français, sur les valeurs, quand je dis « ils », c'est nous, parce que moi, j'appartiens à cette famille-là, à ce camp-là. Comme ils ont une énorme influence sur l'imaginaire et les valeurs françaises, sur le débat politique, tant que eux ne se seront pas convertis au modèle scandinave, on ne va pas avancer.
Question, remarque aussi d'Elisabeth Lévy, hein, Denis Oliven, alors, avant de poursuivre aussi sur votre
remarque et deux questions. Bonjour Denis Oliven, bonjour. Et deux questions. Ma critique, c'est que je crois que vous trompez quand vous dites que tout découle de la croissance. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je crois qu'il y a une autonomie des questions identitaires, parce que l'homme ne se nourrit pas que de pain, hein, je suis désolé. Ça n'est pas le seul horizon. L'idée d'avoir un bon salaire et l'idée de...
D'avoir un toit et quand même un peu quelque chose dans l'assiette.
J'ai pas dit que ça n'était pas important, j'ai dit que ça n'était pas le seul horizon. Je dis qu'il y a une autonomie des questions culturelles et identitaires. Je ne crois pas, si vous voulez, que tout se réduise, tout se résolve par la croissance. Et deux questions. Sur les pays scandinaves et notre fameux, comme a dit Alexis, c'est le modèle depuis toujours social, modèle social-démocrate, il me semble, j'aimerais avoir votre avis, que la grande question c'est les syndicats, hein, parce qu'on oublie toujours que dans le modèle social-démocrate, il y a des syndicats très puissants et nous, on a fait le choix, enfin la France, l'histoire de la France est celle d'un syndicalisme révolutionnaire qui donc ne joue pas ce rôle. Et la deuxième, c'est que je me demande si notre culpable, s'il n'y a pas quelque chose de notre inconscient catholique, disons, dans le retournement de la gauche sur la croissance, c'est-à-dire un peu la culpabilité par rapport à l'argent, vous savez.
Oui. Alors, bon, sur ces deux questions, et puis la première réflexion d'Elisabeth sur l'identité par rapport aussi à l'économie, quoi.
Je ne suis pas resté archéo-marxiste et je ne pense pas que la situation matérielle est la seule réponse à tout. Mais je ne crois pas que la croissance résolve tout. Mais ce que je sais, c'est que l'absence de croissance détraque tout. Et que la question de l'identité qui se pose, par exemple, elle se pose aussi au Danemark et en Suède, alors que ce sont des pays qui sont mon modèle. Donc je ne dis pas qu'elle ne se pose pas. Mais vous voyez bien qu'elle se poserait en des termes beaucoup beaucoup plus apaisé et calme si on avait un ou deux points de croissance en plus. Je rappelle juste pour nos auditeurs que un point de croissance en plus, c'est 30 milliards d'euros chaque année en plus. Ça veut dire, par exemple, trois fois le budget du RSA ou trois fois le budget de la police. Donc vous voyez que quand on a de l'huile à mettre dans les rouages, les discussions qu'on peut avoir sur les difficultés du pays sont pas de la même nature. Et on peut regarder ce qui s'est passé en Allemagne. Regardez le débat qui a eu lieu en Allemagne, dans un pays qui va bien mieux que nous, en tout cas à certains égards. La campagne électorale s'est faite sur la question de la redistribution ou de la décarbonation, mais les deux propositions de rupture de modèle d'extrême droite ou d'extrême gauche ont été marginalisées dans le débat. Donc, bien sûr que les questions culturelles sont essentielles, c'est pas moi qui les nierai, mais elles se résolvent beaucoup mieux quand un pays va bien du point de vue matériel que quand il va mal, quand il a du pouvoir d'achat, de l'emploi et des ressources pour ses services publics. Ouais. Deuxième point sur la question que vous me posiez sur le modèle social-démocrate et les syndicats, c'est sûr. C'est certain que dans les réformes qu'il faudrait un jour conduire en France, il faudrait faire en sorte que le régime légal qui fabrique en fait la dispersion des syndicats et leur faible enracinement dans le salariat soit modifié en sorte qu'on ait comme dans les grandes social-démocraties d'Europe du Nord, il n'y a pas 10 syndicats ou 10 fédérations, il y a deux grands syndicats. Un syndicat rouge, disons, et un syndicat bleu,
rose.
Enfin, un syndicat conservateur et un syndicat progressiste, et puis c'est tout. Et ils sont très enracinés dans le salariat, et donc ils sont portés au compromis.
Ouais. Allez, on poursuit dans un instant avec vous, Denis Oliven. Un étrange renoncement, c'est aux éditions Albin Michel, ça vient de sortir. Elisabeth Lévy et Alexis Poulain qui nous ont accompagnés également, ils peuvent encore rester puisqu'ils sont là depuis 9h moins le quart. Et nous, on est encore là pendant 10 minutes avant de parler dans la France à vos côtés aussi du plus grand rassemblement de business. Puisqu'on parle de croissance, qui aura lieu demain en partenariat avec Sud Radio, hein, Cécile.
Oui,
la BPI.
Absolument, c'est l'organisme français du financement et du développement des entreprises. On en parlait justement avec Denis Oliven. Vos appels 0826 300 300 si vous voulez bien sûr parler de cette croissance économique. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
À 9h45, on parlera croissance économique, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez, dans les mauvaises, il y en a des bonnes avec ce grand événement organisé par la BPI qui se déroulera à l'Arena de Paris. Demain, on y reviendra dans quelques instants. En attendant, avec Denis Oliven, oui. Journaliste essayiste, auteur d'un étrange renoncement, on est un peu plus dans l'inverse, aux éditions Albin Michel.
Oui, alors tout dépend où on se situe, bien sûr. Quoi. Parce qu'il y en a certains qui prônent une forme de décroissance ou en tout cas un ralentissement, revoir un petit peu les choses, consommer plus lentement. Enfin bon, il y a eu tous ces mouvements qui sont arrivés. Denis Oliven, est-ce que le sujet de votre livre autour de la croissance sera au cœur ou pas de la campagne des présidentielles qui arrive ? Ou est-ce que, comme on disait avec Elisabeth Lévy tout à l'heure, il y a d'autres questions qui émergent beaucoup plus sur identitaire et un peu où va la France, quoi, en quelque sorte, quoi.
Je crains malheureusement que non. J'ai écrit cet essai en pensant... avec naïveté ou forfanterie, je ne sais pas, qu'il fallait que ce débat soit central, parce qu'il est central, parce qu'il est pour moi la mère de toutes les batailles. Après, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'on retrouve de la croissance, on peut en faire bien des choses, on peut avoir une vision de gauche, de droite, enfin bon bref, le débat politique reste ouvert. Qu'est-ce qu'on fait des fruits de cette croissance ? Mais tant qu'on n'a pas de croissance, il n'y a pas de débat possible parce qu'on ne peut pas redistribuer ce qu'on ne produit pas.
Oui, mais alors,
malheureusement.
Oui, certains vous rétorqueront aussi, et là je mets dans le camp un peu écolo. Oui, mais alors si vous voulez toujours plus de croissance, on va faire ce que l'on a fait jusqu'à il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on détruit notre planète, quoi.
Oui, alors c'est juste. C'est juste qu'il est évident qu'on ne peut pas avoir la même croissance qu'avant. C'est-à-dire qu'on doit avoir une croissance qui consomme moins d'énergie et cette énergie doit consommer moins de CO2. Donc, mais il y a deux façons de le faire. Il y a la façon sont des écolos radicaux qui disent arrêtons la croissance. Mais ça
la méthode Amish. Quoi.
Mais c'est une tragédie, parce que ça veut dire l'effondrement du niveau de vie des pays riches. Et puis, pensez un instant aux pays en voie de développement, qui n'ont pas encore les transports, qui n'ont pas les hôpitaux, qui n'ont pas les médics. Eux, c'est la faim. Eux, ils n'aspirent pas du tout à ça. Ils aspirent à un niveau de vie décent. Donc, cette, pour éviter l'apocalypse du réchauffement climatique, organiser tout de suite la tragédie de l'appauvrissement généralisé, ça me paraît fou. C'est un peu comme quand on rêvait, pour régler la question des inégalités sociales, de faire le communisme.
Ouais.
On a vu le résultat des courses. Donc, cette voie-là me paraît pas la bonne. L'autre voie, et elle existe, ça consiste à dire, investissons massivement les milliards que nous développons là, que nous consacrons à ces questions, investissons-les massivement dans les pays du Sud, parce que chez eux, leur technologie est tellement faible que les gains sont immédiats en amélioration de CO2. Les centrales thermiques d'Indonésie sont tellement polluantes que si vous les changez demain, elles vont immédiatement améliorer la situation. Deuxièmement, investissons massivement dans les puits de CO2 que sont la forêt, les océans et les terres. Il y a des projets pour ça, pour stocker plus de CO2. Et puis, innovons, créons, parce que les écologistes disent on peut pas avoir une croissance infinie dans un monde dont les ressources sont finies, mais on a une ressource infinie, le cerveau humain. Ces technologies existent aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui,
Peut capter le CO2, par exemple, dans l'atmosphère et puis le réutiliser.
Oui, exactement. Il y a des technologies qui existent, elles sont embryonnaires. Et qui investit aujourd'hui pour développer ces technologies? Les milliardaires américains. Ouais, pourquoi est-ce que ce ne sont pas les États européens?
Alors, peut-être qu'on en parlera dans la campagne, mais il y a d'autres sujets qu'on parle dans la campagne. Vous pensez que ça va prendre le dessus, comme on l'évoquait, c'est-à-dire les thèmes développés, notamment dans cette première partie du mois de septembre, par Éric Zemmour?
C'est malheureusement le constat que je fais. C'est pour ça que de rage, j'ai écrit ce livre, pour essayer de manière de pédagogique et la plus démontrée possible d'expliquer que le sujet n'était pas là. Mais je vois que en France, on s'attaque aux symptômes. Oui. Plutôt qu'aux causes. On se déchire sur la question de l'immigration sans essayer de comprendre est-ce qu'on peut remettre en marche la machine à intégrer. On se déchire, on voudrait encore augmenter les impôts sans essayer de voir s'il n'y a pas une autre manière. Pas.
Vous avez parlé de machine à intégrer, on a parlé d'assimilation, il y en a qui disent non, il n'est pas question d'assimiler, c'est aussi au pays, grosso modo, de s'adapter en fait aux populations qui viennent. Pas plus tard que ce matin avec Sophie Cluzel, la ministre qui était mon invitée, qui tenait à peu près ce discours, quoi. Quel est votre
point de vue ? Un débat que je trouve légitime. Il y a un débat entre, mais ça, voilà un débat droite-gauche qui peut exister entre ceux qui sont plutôt partisans d'un modèle multiculturel. Chacun doit pouvoir vivre dans sa différence et un pays, c'est l'association de ses différences. On a des points en commun, mais chacun a une identité. Ou bien un modèle uniculturel, un modèle d'intégration, voire d'assimilation, dans lequel on dit, qui est plutôt le modèle français, dans lequel on dit, non, c'est pas comme ça, on doit, les différences sont d'ordre privé, et comme citoyens, nous devons tous nous ressembler. Et ce qui se ressemble, ça semble. Ça, c'est un débat que je trouve pas illégitime. Moi, je suis plutôt...
Qui va peut-être au-delà même du clivage droite-gauche traditionnel, quoi.
Oui, mais en tout cas, ce débat serait tellement plus apaisé si on était dans un pays plus riche ou qui s'enrichit davantage. Pourquoi ? Parce que les gens qui accueillent les étrangers seraient plus calmes, ils se sentiraient plus rassurés sur leur propre destin. Et puis parce que les immigrés qui arrivent seraient dans une mécanique, par exemple un système éducatif qui fonctionne, ça change radicalement le visage de l'intégration.
Bon, deux questions encore à vous, Denis Oliven, Alexis Poulain, et une réflexion aussi d'Elisabeth Lévy. Oui, votre.
Il y avait le monde de l'après-Covid, on rêvait d'un monde d'après. On a l'impression qu'on a complètement laissé ça de côté. Or, on aurait pu réfléchir à comment justement remettre la croissance autrement. On parle d'écologie, etc. Est-ce que le retard qu'on a pris, au-delà de la crise Covid, le retard des années d'avant, il se rattrape? Ou est-ce que là, on va avoir un déclin programmé et ça va, ce qu'on voit aujourd'hui, les queues devant les banques alimentaires des jeunes étudiants, est-ce que ça, c'est que le début ou est-ce qu'on peut rattraper la courbe?
Non, je pense qu'il se rattrape, c'est pour ça que je ne suis pas du tout décliniste, il se rattrape, mais il faudrait qu'on se fixe les bons objectifs. Pour moi, quels devraient être les objectifs qu'on se fixe? Par exemple, on est aujourd'hui le 12e pays ou le 11e pays européen pour l'innovation. On a devant nous des tout petits pays, le Danemark, la Suisse, la Suède. Pourquoi est-ce qu'on ne se fixe pas comme objectif d'être dans les 7 ou 8 ans qui viennent le 2e ou le 3e pays européen pour l'innovation? On est très très loin dans les classements.
Il y a un plan recherche qui a été mis sur la table.
Oui, mais on est très loin dans les classements. Ça devrait être ça le centre du débat. Je disais tout à l'heure, on est à 600 heures de travail par an et par habitant. Pourquoi on se dit pas, on se donne 5-6 ans pour atteindre le niveau des Allemands, c'est-à-dire 700 heures par habitant? Et c'est pas forcément des choses punitives. Par exemple, accélérer fortement l'alternance. Développer la garde des enfants pour que le taux d'activité des femmes soit plus facile. C'est des choses qui sont pas punitives. Et voilà des objectifs. Si on avait un débat plus apaisé et, me semble-t-il, plus rationnel, c'est ça qu'on se donnerait comme objectif au lieu de... Je suis un peu éberlué par le fait qu'on ait des débats politiques qui sont si loin de ce que devraient être nos objectifs pour retrouver un sentier de croissance.
Allez, merci Denis Oliven. Un étrange renoncement. Pourquoi les Français ont l'impression de ne plus y arriver? Il y a des pistes très intéressantes. C'est aux éditions Albin Michel. Merci d'être venu ce matin. matin au micro de Sud Radio. Je sais qu'Elisabeth Lévy avait encore des questions à vous poser, mais vous en gardez un petit peu sous la pédale.
Elle m'enverra des SMS.
J'en garde sous le pied.
Voilà, il reste 6 mois. Denis Oliven pourra en venir et on pourra en débattre évidemment tout au long notamment de cette campagne de la présidentielle. Dans un instant, on va parler justement
des petites et grandes entreprises et des entreprises à venir, parce que c'est aussi tourné vers les futurs entrepreneurs. Ça s'appelle le BPI InnoGénération. On en parlera avec nos invités dans quelques instants. À tout de suite.